d'Ivry.
Radio Libertaire 89.4 et vous allez ouvrir tout grand vos oreilles puisque vous allez écouter l'émission Bibliomanie aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand avec à la technique Flo Descailloux qui prépare son cocktail musical. Voilà, elle a préparé quelques coups de cœur musicaux pour quelques petites parenthèses entre à lire entre les lignes et à écouter surtout. Et aujourd'hui nous avons la joie de recevoir Richard Guettet Moi, ce qui était mon coup de cœur de départ, comme un malpropre. Donc, c'est un roman, apparemment un petit roman, mais très dense, qui vient de paraître dans une maison d'édition que je ne connaissais pas, Richard Guettet, s'appelle les éditions Esquif, hein, c'est ça?
Bonjour. Madame Marie. Oui, tout à fait. Esquif, une maison qui s'est lancée il y a pile un an. On fête son anniversaire, là, toute cette semaine, montée par un merveilleux personnage nommé Pierrick Starsky à Marseille.
Eh ben voilà. Vous savez tout. Ouais. Et puis, chemin faisant, comme je m'arrête jamais à un livre, j'ai lu aussi Tête en l'air et Rainbow Warriors. Donc, c'est paru, ces deux livres, on pourrait dire deux récits qui sont parus aux éditions Paulsen. J'ai beaucoup aimé Tête en l'air. Tête en l'air, en plus, il a une sorte de sous-titre, un bras cadabrant. Récit authentique et déséquilibré d'une ascension du Mont Blanc par un blanc-bec à lunettes, inexpérimenté, qui, au cours de son voyage, réappris à marcher. Il y a tout dans ce sous-titre.
Eh oui.
Hein, c'est important, les sous-titres. Donc ça, c'est deux récits que j'ai beaucoup aimés aussi. Et puis, il y a, pour les plus jeunes, il y a Les ours blancs ne perdent pas le nord. Ça vient de paraître aussi à l'école des loisirs. Alors, Les ours blancs ne perdent pas le nord, Richard Guettet, je serais presque tenté de dire, est-ce que quand on écrit, est-ce que c'est pas mieux de perdre un peu le nord, de faire un pas de côté, parce que c'est ce que vous faites dans tous vos écrits.
Oui, bien sûr, il faut se déboussoler soi-même ou se laisser déboussoler par les événements. C'est quelque chose de fondamental parce que sinon on s'engouffre sur une route bien droite, alors que ce que nous adorons, je pense. Vous et moi, alors que je ne vous connais pas, mais je peux le deviner, c'est les zigzags,
oui.
c'est les ronds-points, c'est les marches arrière, c'est les accélérations et les ralentissements, c'est justement de se demander, c'est les explorations de territoire. Donc effectivement, perdre le nord pour essayer de soit d'en trouver un autre ou d'aller explorer le reste de la carte, mais par contre, quand même, en tenant une ligne, la structure d'un livre, que ce soit un roman ou un récit, que ce soit pour les adultes ou pour les enfants, il faut quand même sentir une direction et connaître sa destination. Parce que sinon, si ça part perpétuellement dans tous les sens, on est complètement largué, on s'ennuie et on se demande s'il y a un pilote dans l'avion.
Bah, il y a un pilote avec vous. Donc, comme un malpropre, c'est un roman, voilà, on va en parler, mais c'est très construit. Enfin, vos livres sont très, très construits. Même si on aime naviguer à vue. Hein. Mm-hmm. Vous savez, quand les toits règlent, ils viennent par là. Hein. On suit comme ça
les étoiles.
Mmh. Hein. Alors, vous êtes un homme de radio, vous avez collaboré à Radio Nova, vous avez créé le Jukebox littéraire, et vous collaborez aussi à Arte Radio, hein, vous faites des podcasts. Hein. Sur Instagram, vous vous présentez comme un papoteur patenté. Vous êtes ce qu'on appelle un journaliste multicasquette, multicarte, si on pourrait dire. Et vous avez même publié sous le pseudonyme de Gabriel Robinson.
C'est oui.
Aux Inditions Intervalles.
Oui, mon premier roman qui s'intitule Les Heures Pâles, sorti en 2013. Je l'ai publié d'abord sous pseudonyme, effectivement, sous ce nom. Il est ressorti en poche 10 ans plus tard sous mon nom à moi. Mais ce premier roman, c'est vraiment le plus autobiographique de mes textes. C'est encore un roman, mais disons qu'une grande partie du texte est exacte. C'est un roman sur la double vie de mon père. Et à cette époque-là, j'ai jugé plus délicat vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ma mère, mon frère, ma sœur, en fait, ça leur simplifiait la vie si ça sortait sous un autre nom. Ils se sont pas du tout opposés à la publication, mais tout était plus simple si ça sortait sous un autre nom. Et j'ai pas un tel appétit de notoriété de me dire non, ça doit être mon nom. Donc à cette époque-là, c'était plus facile. Et quand la question du poche est arrivée, je suis bon maintenant, de l'eau a coulé sous les ponts, ça peut sortir sur mon nom. Et surtout, ça rectifie un peu un petit malentendu, parce que parfois c'était le deuxième roman qui était présenté comme le premier. Et c'était pas si juste.
Gabriel Robinson, ça vous va bien, hein. Je pense aux Robinsonades.
Oui.
Là, quand même. C'était
précisément choisi pour ça.
Tête en l'air aussi.
Vous bivouaquez,
et puis même Rimbaud Variant.
Mais est-ce que tous les livres sont des îles désertes, et est-ce que toutes les îles, finalement le naufragé sur une terre qui nous reste à explorer, en fait. C'est un peu ça quand on commence un livre. On arrive sur le rivage, bon, mais est-ce qu'on va trouver des vivres? Où est le premier point d'eau? Est-ce que d'autres personnes habitent sur cette île? Est-ce qu'on va devenir amis? Est-ce qu'à un moment on va souhaiter faire du stop et être repris par un cargo pour pouvoir rentrer chez soi? C'est pas sûr.
L'insularité, ça a du bon souvent. Alors comment vous arrivez, vous? Enfin, ça c'est une question un peu bateau, mais tant pis, je la pose en premier.
Vu qu'on vient de parler de cargo, ça tombe bien.
Bah voilà. Comment vous conciliez, finalement, on en a un peu parlé hors antenne, écriture, radio, toutes vos activités, finalement. Quand s'inscrit l'écriture dans votre vie? Comment s'inscrit-elle? Vous êtes un lecteur compulsif, j'imagine.
Un petit peu.
Mais comment vous arrivez, finalement, à être un peu un homme d'orchestre? J'ai l'impression que tout se rejoint dans votre cas.
Oui, hein. Toutes les activités se nourrissent. C'est-à-dire, pour un peu cadrer la pertinence de votre question. J'anime effectivement un podcast sur Arte Radio depuis 6 ans,
ouais,
qui s'intitule Bookmakers, les écrivains au travail, et qui consiste tous les 2 mois en une interview en 3 épisodes d'1 heure pour expliquer comment une œuvre d'un écrivain ou d'une écrivaine s'est constituée sous l'angle de la fabrique de l'écriture. Comment naissent les romans, comment naissent les personnages, comment structurer un texte, mais aussi d'où vient l'écrivain ou l'écrivaine, c'est-à-dire quelles sont les conditions sociologiques qui ont permis l'émergence d'une vocation. Est-ce que cette personne arrive à vivre de son écriture ou nécessite-t-elle d'avoir un emploi à côté?
C'est important.
Comment est-ce qu'on négocie des contrats? Faut-il être vigilant vis-à-vis de ses droits d'auteur? Quel regard cette personne a sur des textes qui ont été publiés il y a 10, 20 ou 30 ans? Regrette-t-elle certains de ses écrits? Voilà, donc ça, c'est un travail qui m'occupe 80% de, disons, ma vie professionnelle, parce que j'essaye de lire l'intégralité de l'œuvre avant de rencontrer l'invité. Je lis la quasi-totalité des interviews que je peux trouver. Les gens viennent pour environ 4 à 6 heures de conversation qui deviennent ces 3 heures une fois qu'elles sont réalisées et montées. Et ensuite, il y a 10 jours de post-production pour malaxer la matière. C'est une chance extraordinaire, un peu comme ici, c'est-à-dire on a du temps pour explorer un geste, pour explorer un artisanat, une discipline. Donc c'est très rare en France, peut-être même en Europe. Et c'est une chance folle que Arte Radio y accorde toute cette attention. C'est une chance folle aussi pour moi, à titre individuel, parce que j'ai l'impression d'être en cours particulier avec les meilleurs professeurs de la francophonie.
Oui, oui.
J'ai vraiment des dialogues en tête-à-tête pendant 4 à 6 heures avec de remarquables écrivains et écrivaines, et je peux leur poser toutes les questions qui me passent par la tête sur la fabrique d'un chapitre, sur une scène que je trouve particulièrement enlevée, sur leur usage du point-virgule, et me demander aussi, parce que il n'y a pas que des romans, parfois j'interroge des gens qui font du théâtre, de la poésie, il y a un numéro sur un éditeur, il y a des numéros sur des scénaristes de bande dessinée, des scénaristes de cinéma, et donc c'est des territoires littéraires sur les derniers que je viens de citer, au propos duquel je ne connais pas grand-chose dans la fabrique, et donc je peux poser plein de questions extrêmement simples. Est-ce que, par exemple, dans un recueil de poésie, est-ce que la manière dont les mots sont disposés sur la page, est-ce que c'est ça qui fait poème, ou est-ce que c'est à équivalence avec la force lyrique du texte? Eh ben ça, ça a l'air stupide de loin, mais en fait, si on justifie le texte et on le met en un seul paragraphe, est-ce que c'est toujours de la poésie? Ben ça, pouvoir en discuter de manière un peu sérieuse, bien que candide, avec une par exemple une poétesse comme Laura Vasquez, eh ben ça fait du bien. Et je sais que ça décomplexe beaucoup de gens, si je me fie au témoignage que je reçois, de pouvoir se dire, ah oui, c'est vrai, peut-être que si je change ne serait-ce que la disposition de mon texte sur une page, ça finit par ressembler à un poème. Ça ne suffit pas, bien entendu. Il faut que vous soyez capable de restituer quelque chose de l'expérience humaine ou du travail de vos perceptions qui mériterait d'être organisé en peu de mots, en strophe ou pas, en rime ou pas, pour pouvoir dire je suis en train de faire la poésie, mais quand même ça permet. Et donc et pareil pour la littérature jeunesse, au moment où j'ai commencé le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, Les ours blancs ne perdent pas le nord, publié avec les dessins de la merveilleuse Anne-Hélène Dubray, j'avais jamais écrit pour la jeunesse avant. Et j'ai eu l'occasion, pour Arte Radio, d'interviewer Claude Ponty ou Marie Desplechin. Votre réalisatrice vient de faire « Ah !» de grande joie. Et c'est quelle chance de pouvoir aller dans l'atelier de Claude Ponty ou de discuter avec Marie Desplechin pour leur demander comment s'adresser aux enfants.
Alors, ma question était un tout petit peu différente quand même. Je voudrais savoir si la maîtrise radiophonique, enfin la pratique de la radio, a eu une influence sur votre écriture. Parce qu'il y a des trouvailles dans votre écriture, il y a des jeux de mots, mais il y a du rythme. Oui. Il y a aussi du rythme. Alors, est-ce que vous avez, vous, observé, puisque vous avez, vous avez peut-être commencé à écrire bien avant de faire de la radio, enfin, ou après, ou ça s'est fait d'une façon concomitante, mais est-ce qu'il y a une sorte d'influence entre radio, l'oralité et l'écrit? Voilà.
Je pense que oui. Ça serait mentir de vous dire franchement non. J'ai commencé à écrire des nouvelles il y a à peu près 20 ans, on va dire en 2006-2007. Puis je me suis lancé dans les heures pâles dont on vient de parler. Et ma première professionnalisation en tant que journaliste radio, c'est en 2011, en arrivant sur Radio Nova pour une émission quotidienne, le Nova Book Box, le Jukebox littéraire que vous avez cité également. C'est sûr que l'oralité frénétique que demande une émission quotidienne, surtout que moi elle durait 2 heures et j'étais seul à l'antenne, c'est certain que ça a eu une influence sur la manière que j'ai d'écrire. Je n'oublie jamais les sonorités, je suis un peu toqué des allitérations, je me demande toujours quand je cherche à faire avancer une phrase ou un paragraphe, y a-t-il dans la phrase ou les phrases précédentes une sonorité qui pourrait faire naître un réseau de sens supplémentaire? Est-ce que je peux chercher moi-même des trouvailles à l'intérieur de la couleur des mots, de leur pure sensualité, pour faire naître un sens connexe à ce que je dois dire? C'est-à-dire que le texte ne doit pas seulement être une espèce de train fictionnello-fonctionnel qui avance à bas régime jusqu'à l'arrivée en gare du dernier chapitre. Je me demande toujours, est-ce que la langue elle-même dans le son et même dans l'organisation des lettres sur la page, est-ce qu'elle peut pas nous envoyer sur d'autres images en haut passage? Voilà, c'est quand même une préoccupation continuelle. J'ai aussi, peut-être qu'on aura l'occasion de s'en rendre compte, une propension au jeu de mots un peu névrotique qui me travaille au quotidien un peu tout en permanence, que j'essaye de réfréner. Mais du coup, cette sonorité là, elle a sans doute était amplifié par, on va dire, de 15 ans de radio. Ouais.
Oui, et puis, alors, les jeux de mots, oui, mais ce que j'aime bien chez vous, c'est que c'est pas systématique. C'est pas... Alors, je voudrais connaître le point de départ de ce roman, comme un malpropre. Moi, j'ai bien sûr pensé à Pérec, aux choses de Pérec. Ça, ouais. C'est la grande référence. Alors, Gary, 42 ans, entreprend de nettoyer son appartement. Là, je lis un résumé. Hein. Mesure qu'il avance dans ses tâches ménagères, des pans entiers de sa vie lui reviennent, des bribes d'enfance, des épisodes de son adolescence ou encore des fragments oubliés de son quotidien. Au fil de son introspection, des questions inattendues émergent, suivies de réponses insoupçonnées. Donc, c'est le grand ménage. Ça me fait penser à une émission de télé que je regarde de temps à autre pour me détendre, où ils font le ménage, justement. Ah, Il y a des intérieurs. On se demande d'ailleurs si c'est vraiment des vrais intérieurs, s'il n'y a pas du trucage.
Ah oui.
Mais bref, quel a été le déclic pour
le déclic, c'est une peine, c'est une peine de cœur. C'est il y a 2 ans, j'étais très amoureux d'une femme exceptionnelle, et il y a eu un moment où j'ai cru que elle était sur le point de partir. Au prétexte d'une pagaille qui régnait dans mon appartement. Mmh. Et comme je tenais beaucoup à elle, je me suis dit, tiens, ça serait trop bête que si c'est ça, ça serait vraiment trop bête. Donc, il y a eu un moment où elle est partie travailler en Normandie, et je me suis dit, bah tiens, là, j'ai pas de travail là pour les prochains jours. Je vais intégralement, centimètre par centimètre, nettoyer, ranger,
faire le bilan de
réordonner ouais. mon petit appartement, hein, 36 mètres carrés dans le 19e,
ouais.
Mais vraiment pour pouvoir me dire peut-être que ça va pas me faire de mal. Et au passage, en fait, je me suis rendu compte, ça m'a pris 12 jours pour le faire très sérieusement, et je me suis dit, tiens, à chaque fois que je déplace un objet, à chaque fois que je jette quelque chose, à chaque fois que je m'interroge sur ma capacité à précisément accomplir la tâche ménagère demandée dans cette pièce vis-à-vis de cette chose, ressurgissent en moi des souvenirs à la fois de l'histoire d'amour vécue avec cette personne, mais aussi des éléments de ma vie que je ne voudrais pas voir disparaître si jamais je jette l'objet en question. Et dans un deuxième temps, réalisant bien entendu que c'est à la fois agréable et désagréable en même temps de passer autant de temps à nettoyer, agréable parce que on se nettoie soi-même, on fait le tri dans son petit bordel intérieur, donc ça fait pas de mal, désagréable parce que c'est en fait si on le fait toute la journée c'est fatigant, mais je réalisais que bizarrement je n'avais pas, alors que j'ai sans doute comme vous une assez grande bibliothèque chez moi, aucun texte, peu importe le genre, peu importe l'époque, aucun texte dans lequel un homme fait le ménage.
Ah bon ?
Rien. C'est-à-dire que
c'est vrai, faire le ménage, mais vous avez des Pérec quand même chez vous.
Eh ben, j'ai des Pérec,
ouais.
Mais celui que vous avez cité, je pense
les
pas
choses,
que
je, vous l'avez pas
l'homme, je l'ai lu. Oui. C'est le seul Pérec d'ailleurs que j'avais lu avant d'écrire ce texte.
Ouais.
Et je pense pas qu'il fasse le ménage dedans.
Non, il fait pas le ménage.
Il y a une attention sur comment est-ce que les objets de la société de consommation des années 60 définissent les personnages. Texte fabuleux,
ouais.
Mais l'homme ne fait pas le ménage.
C'est vrai.
Parce que c'est un produit de son époque, donc le patriarcat se porte vraiment très 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 bien.
Ouais.
Et donc j'avais aucun autre exemple, si ce n'est un exemple qui est dramatiquement drôle, qui est ce roman de Bret Easton Ellis publié en 1989 qui s'intitule American Psycho, dans lequel un trader, possiblement, l'adverbe est très important, tueur en série, passe un temps fou à nettoyer son appartement richissime de New Yorkais dans la finance pour pouvoir zigouiller ses victimes de manière, ses possibles victimes, de manière un peu compulsive. Donc je me suis dit, tiens, on est en 2026 et je n'ai pas le moindre référent sur un homme en train de faire le ménage. Et je me suis dit, tiens, peut-être que la collusion entre mon chagrin de peut-être me faire larguer à cause d'une question ménagère et l'absence de documentaire sur ce sujet, peut-être que ça justifierait de commencer à écrire quelque chose et aussi pour me souvenir de cette histoire d'amour si jamais celle-ci venait à à péricliter. Et c'est le moment où j'ai reçu un coup de fil de Pierre Starsky des éditions Esquif, qui était à la recherche de nouvelles ou de novellas, disons, de petits romans pour alimenter cette collection. Et du coup, j'ai proposé ce sujet et il m'a dit c'est bon.
Oui, non, mais c'est pari réussi. Surtout qu'à chaque, c'est un peu. Alors, c'est vrai que le ménage, on pense plutôt à Ruth Rendell, l'analphabète, mais là, ce sont des femmes qui font le ménage. Enfin, ah oui. ça. Mais on pense plutôt, c'est vrai, au polar, parce qu'il faut effacer toutes les traces. Ah mais ouais. vous faites le système inverse, vous retrouvez les traces.
Oui, c'est-à-dire
qu'à chaque objet, voilà, Gary referme la porte derrière laquelle sont pendues les choses curieuses, une longue perruque orange, un très beau masque de lion, un Panama rapporté de Cuba que Gary n'a porté qu'une fois à Cuba, trois chapeaux pointus de papier en souvenir de son 40e anniversaire, le blouson en sky de ses 20 ans, un lourd caban de marin fatigué, une chèche bleue de Touareg rapportée du Mali, qu'il a beaucoup porté, un peu moins maintenant. Entre la perruque et le Panama, Gary a scotché un cliché, l'enseigne lumineuse d'un bar qu'il ne connaît pas, mais dont le nom lui a toujours plu aux enfants sages. Voilà, à chaque fois, il y a une rencontre. C'est ça, vous rencontrez une trace de votre vie,
oui.
Vous êtes l'archéologue de votre propre vie.
Oui, c'est vrai. J'aime bien la figure de l'auto-détective. C'est quelqu'un qui essaierait de faire une enquête sur lui-même à partir de toutes les traces. Y a-t-il eu un meurtre ? C'est la bonne question. Qui a été tué dans cette histoire ? Est-ce que c'est le vieil adolescent que j'étais, puisque je pense qu'il n'aura pas échappé à vos auditrices et auditeurs que la forte teneur autobiographique de tout ce bazar. Est-ce que je constate, je fais l'autopsie, c'est-à-dire une autopsychanalyse.
Ouais.
Je fais l'autopsie du vieil adolescent que j'étais et que je ne veux plus devenir, parce que j'ai aujourd'hui une relative discipline de fer concernant mon ménage personnel. Et effectivement, ça se tient. Chaque coin, objet déclenche des pistes d'élucidation de l'affaire.
Mais voilà. Vous arrêtez pas. Mais on va faire une pause musicale. Voilà.
Et oui, vous avez parlé de Grand Nord, d'ours blanc et d'île, mais je pense que dans cette île, il n'y a pas d'ours blanc. Mais par contre, il y a une roqueuse absolument géniale. Elle s'appelle Björk et c'est l'Islande.
Ah oui.
J'espère que je ne me suis pas trompée. S'appelle Dark Matter.
I'm
chaud l'ambiance.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire.
Chaud l'ambiance avec Björk.
Voilà, vous êtes bien sur Radio Libertaire. Vous écoutez l'émission Bibliomanie aujourd'hui avec Richard Guettet, qui nous présente Comme un malpropre. Ça vient de paraître aux éditions Esquif. Je ne sais pas si je prononce bien.
Vous prononcez très bien. C'est comme le petit bateau.
Ah, oui.
Un Esquif pas si frêle.
Ouais. Et deux livres aux éditions Paulsen, Rimbaud, Warriors, Fugue avec lui d'ailleurs, Une autorisation à foutre le bordel, d'après Franz Bartelt, qui est un très bon écrivain, et Tête en l'air, ça je l'ai bien aimé celui-là, donc c'est aussi aux éditions Paulsen, plus Les ours blancs ne perdent pas le nord, à l'école des loisirs. Richard Guettet, alors voilà ce que se dit Gary, d'ailleurs, votre personnage. Gary se dit que sa piole annonce d'emblée une drôle de couleur, farce et attrape, ni sérieux ni sexy. Le côté farce et attrape aussi, parce qu'il y a toujours de l'inattendu. Vous êtes bien amusé quand vous avez quand même... Mais il y a beaucoup de travail, on sent que... il y a de l'amusement, mais il y a beaucoup de recherche, il y a beaucoup parce que votre roman, c'est une novella ou un roman, enfin moi, il est dense, scène de ménage d'ailleurs, sous-titré comme un malpropre, sous-titré scène de ménage. Donc, pièce par pièce, entrée,
chaque
salon,
chapitre est centré sur une pièce.
Même les toilettes, la chambre, et puis après, la salle de bain. La salle de bain, on pense bien sûr à Jean-Philippe Toussaint, mais la salle de bain. Et à chaque fois, vous explorez le moindre... Vous devenez l'explorateur en chambre. Vous explorez le moindre...
En robe de chambre, peut-être même. C'était ça le jeu. C'est-à-dire se demander... En fait, tout est signifiant. J'apprends rien à personne, mais c'est-à-dire que si vous regardez très longtemps un objet ou une pièce vide, en fait, les raisons pour lesquelles cet objet a été posé là, pourquoi vous l'avez choisi, ça dit énormément sur la personne que vous êtes, ça dit sur votre classe sociale, ça dit sur vos goûts. Si vous commencez à analyser vos goûts, est-ce que vos goûts vous appartiennent ou est-ce qu'ils proviennent de la manière dont vous avez été éduqué? Est-ce que vous avez refusé certaines choses de votre éducation pour aller vers d'autres manières d'exprimer votre goût? Donc, si on commence à vraiment... regarder avec franchise la manière dont sont constitués les objets d'un appartement pas très grand. On pourrait peut-être faire le même exercice avec un château, ce qui donnerait un roman beaucoup plus long.
Ou un studio
radio,
voilà.
Bien sûr. C'est en fait c'est comme un brin d'ADN. Sur une goutte de sang, on apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Voilà. Donc l'exercice, effectivement, farce et attrape, il est fait sérieusement, parce que les choses absurdes, il faut les faire sérieusement, et les choses sérieuses, il faut les aborder avec un peu d'absurde. Je pense que les deux, c'est un yin et un yang qui se nourrit pour obtenir une sorte d'équilibre.
Puis il y a des rencontres aussi littéraires. On pense à des écrivains en chambre comme Alfred Jarry. Je pense, vous dites l'été dernier, Gary a organisé en Bretagne une course cycliste pataphysique en hommage à Alfred Jarry, au cours de laquelle 10 cyclistes, dont lui-même, bien que Gary n'ait jamais pratiqué le vélo avec assiduité, ont parcouru 10 communes sur 222 kilomètres afin de propager la parole du père Ubu et les leçons de sa science des solutions imaginaires. Il y a ce côté-là, imaginaire...
Histoire vraie, hein.
Oui.
Je sais pas si c'est,
c'est ça que j'aime bien.
À l'attention des gens qui nous écoutent.
Non, mais parce qu'il y a le vrai et le faux, toujours.
Oui, oui. Histoire vraie, si jamais vous voulez voir, on a fait un film de cette épopée pataphysique en Bretagne. Ça s'appelle donc J'arrive. Mm-hmm. Le film est YouTube, magnifiquement réalisé par Eva Sanchez. Et effectivement, il y avait une banderole gigantesque avec le père Ubu représenté. En PVC, en cuir, une sorte de une grosse matière plastique jaune très affirmée, qui servait de ligne de départ et ligne d'arrivée de chacune des étapes de cette course. J'ai voulu la garder parce que j'y étais attaché en souvenir de cette aventure qui a duré une petite semaine. Mais quand on a un petit appartement et pas de cave, et qu'on reçoit son amoureuse extrêmement raffinée, élégante, qu'est-ce qu'on fait de cette banderole qui traîne au milieu du salon? Est-ce bien raisonnable?
Ubu tenant un panneau avec ce mantra chéri, la liberté, c'est de n'arriver jamais à l'heure. Voilà, ce que vous citez.
Oui, c'est peut-être ce qui va se passer avec l'une de nos idoles, Brigitte Fontaine, qui va peut-être un jour arriver à l'heure ou pas, on ne sait pas. Mais attention, peut-être qu'elle va venir dans le studio. On ne sait pas, tout peut arriver.
Tout est possible.
Mais cette liberté de ne jamais arriver à l'heure, ce qui était flagrant évidemment pour les coureurs et coureuses cyclistes, parce que du coup, on était toujours en retard, parce qu'il n'y avait aucun véritable cycliste dans l'équipe.
Ouais, ouais.
C'est aussi peut-être le slogan possible de Radio Libertaire. Mmh. Si je décide de mon emploi du temps, je ne suis plus l'esclave d'un patron. Ah ouais. Je ne suis plus l'esclave d'une société productiviste. Laissez-moi décider de mon emploi du temps.
Laissez-moi décider de mon emploi du temps, de mes lectures d'ailleurs, et de mes bifurcations, puisque votre itinéraire est riche en bifurcations, Richard Guettet. Est-ce que vous êtes un écrivain? Parce que finalement, je trouve vos livres très complémentaires. Entre Tête en l'air, Rainbow Warrior et Comme un bal propre, je ne parle pas du livre pour la jeunesse, mais qui aussi complète l'ensemble, il y a le rapport dedans-dehors. Voilà, il y a le rapport je suis dehors-dedans. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Je suis en voyage chez moi,
oui.
et dehors, je cherche mon cocon aussi. Enfin, vous bivouaquez là, dans Tête en l'air. Il y a des scènes de bivouac, il y a des scènes
d'alpinisme, d'ascension, bien sûr, oui, bien
de
sûr.
Verticalité. Là, on est plus dans l'horizontalité, on va
oui,
dire.
On est pas mal au lit. Mais en train de faire le ménage, donc debout.
Oui, debout.
Oui, oui.
Et en exploration.
Ouais, bah ça me passionne. En fait, j'ai le point commun, je pense, de tous les livres que j'ai publiés jusqu'à présent, c'est quand même la question de l'aventure. Mmh. Quand commence et quand c'est finit ça. Une aventure. Ouais. Puisqu'il y a peut-être rien à explorer, est-ce que tous les territoires ont été cartographiés? Est-ce qu'on peut quand même encore vivre des aventures? La réponse est oui, mais du coup, ça redéfinit les termes de la narration. Et la question de l'humour. C'est-à-dire, vraiment, j'essaie toujours de me demander l'un des attendus terriblement pesants de la littérature, et attention, je vais le prononcer avec la majuscule, la littérature, c'est l'esprit de sérieux qui est quasiment congénital, surtout dans un pays qui attache autant d'importance à ses écrivains que la France. Moi, j'essaie toujours de piéger cette question. J'ai toujours grande conscience de mon ridicule, mais par contre, il faut prendre très au sérieux l'art de raconter des histoires.
Bien sûr.
Voilà. Donc il faut naviguer entre j'ai très envie de partager du récit avec vous et j'ai envie d'être généreux en surprise, en rebondissement, en chausse-trappe, en bifurcation, comme vous l'avez dit. Mais il faut pas que je devienne un héros. Où faut pas que j'ai l'air de tout savoir, ce qui n'arrivera jamais. Donc du coup, il faut pas non plus que je me pare d'une espèce de toge grecque et d'une couronne de laurier pour vous donner l'impression que je suis dans le ciel des idées ou sur une espèce d'Olympe avec ma petite plume. Non, pas du tout. Donc ça veut dire que il y a une appétence très forte du voyage, d'une aventure de proximité, trouve, ouais. Mais qui dialogue avec l'intérieur du geste de l'écriture, qui est toujours des heures et des heures et des heures, des semaines et des mois devant un ordinateur mal assis. Voilà. Donc du coup, ce dialogue entre la tête et les jambes, c'est aussi un autre yin et yang qui finit par s'équilibrer.
Il y a la pesanteur et l'apesanteur.
Oui.
Il y a la légèreté, la profondeur. Il y a la notion de labyrinthe aussi, parce que c'est très labyrinthique, mine de rien. Vous vous y retrouvez dans votre propre labyrinthe. Et puis il y a ce que je pense, ce qui vous importe. Vous prenez un chemin, mais vous aimez pas savoir ce qu'il y aura au bout du chemin, forcément. C'est-à-dire que vous aimez l'inattendu. On sent que quand vous commencez une phrase, et c'est le propre d'un véritable écrivain, en tous les cas, j'espère. Vous commencez une phrase, vous la charpentez, vous y avez des bifurcations, etc. Mais il y a toujours un inattendu qui va vous nourrir, vous surprendre, vous émouvoir, peut-être.
J'ai un confrère dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Sylvain Prudhomme, que vous avez peut-être lu, qui a rencontré, par exemple, beaucoup de succès avec un livre sur l'autostop, donc un aficionado de bifurcation lui aussi, et qui disait, mais attendez, si on fait un plan, c'est pas la littérature, c'est une rédaction.
Voilà.
C'est-à-dire que si on sait exactement ce qu'on va écrire jour après jour, ça vaut pas le coup de s'y mettre. La raison de se mettre devant son ordinateur et donc de se priver de la présence des autres, de se priver de l'expérience du monde, c'est justement l'inattendu qui va apparaître dans le fil de ses pensées, dans le fil de la phrase. Il y a une autre écrivaine que vous connaissez évidemment, qui s'appelle Natasha Appana, qui a eu beaucoup de succès avec son dernier livre, La Nuit au cœur. Elle dit, par moments, j'aime, alors que je suis au milieu d'une phrase, tourner la tête, alors que je suis à mon bureau, regarder la fenêtre, un oiseau se pose sur le balcon. Et si cet oiseau déclenche en moi une émotion, il peut se retrouver sur la page. Et ça ne bouleverse pas fondamentalement le texte. Mais.
Non, mais c'est vivant.
Mais ça vient colorer le geste lui-même de l'écriture.
Il y a une circulation vivante dans la phrase.
Voilà. Très important.
Il y a du sang qui coule. Enfin, je veux dire, il y a la vitalité de l'écriture qui fait que c'est pas figé. Voilà.
Sinon, vous êtes un clerc de notaire.
Ah bah.
On ne veut pas lire ça. Tout le monde va s'ennuyer. Non. C'est impossible.
Non, mais si je vous ai lu, c'est que je me suis pas ennuyée. Rassurez-vous. Non seulement je suis pas ennuyée, mais je trouve qu'il y a, c'est très littéraire en même temps. C'est pas, vous allez pas non plus à la facilité. C'est-à-dire que vous cherchez dans cet espace réduit de votre studio, vous cherchez, je dirais presque la petite bête, mais cette petite bête est très importante. Alors il y a aussi Rita, la femme de sa vie. Hein. Gary ne la trouve pas spécialement à son goût. Là, on retrouve le clin d'œil bien connu. Mais la vie lui prouve sans cesse que les goûts évoluent au bon plaisir des circonstances. J'allais dire au bon plaisir des circonstances pour être le sous-titre aussi de votre livre, Richard Guettet.
Qu'est-ce que voulez-vous savoir sur cette personne?
Ben Rita, donc je poursuis, hein, parce que Gary, il y a aussi un autoportrait. Gary vit sans animal, mis à part l'araignée philosophe,
F.I.L.
et voilà, qui court sur la tuyauterie des toilettes. Gary a souvent honte de recevoir la femme qu'il aime dans de si modestes conditions, avec les miettes de croissant qui tombent dans sa paire de baskets rangées sous sa table. Rita ne semble pas s'en soucier. Donc Gary, pourquoi le prénom de Gary d'ailleurs?
Parce qu'il y a des... C'est à la fois les deux premières lettres de mon nom de famille et les associées phonétiquement aux deux premières de mon prénom. Par ailleurs, vous aurez reconnu le patronyme d'un remarquable écrivain français, Romain Gary. J'aime bien le fait qu'il ait un prénom anglophone qui le décale un peu par rapport à sa situation géographique, puisque je dis dès la première page qu'il habite à Paris. Et je me dis, tiens, on s'interroge, quel est donc cet Olibrius possiblement américain qui nous raconte sa vie? Voilà. J'aime bien fabriquer cet alter ego, et d'un seul coup, un prénom court, et ça résonnait bien aussi,
oui,
ces quatre lettres, avec les quatre lettres de Rita. C'est les mêmes voyelles.
Oui, deux.
Gary, Rita, ça fait. Ils sont en miroir, alors qu'ils ont du mal à se regarder.
Alors c'est un homme sans qualité, Gary. Il a. Écoutez, non, mais il se définit un peu comme ça. Il y a la lettre à sa mère, je crois, à un moment donné, il s'adresse à sa mère. Pourquoi ne m'as-tu jamais appris à cuisiner, ou à faire le ménage, ou à ranger ma chambre, ni à moi, ni à Frédérico? Pourquoi pas? Papa, il faut rien à la maison à part le barbecue, les impôts, les papiers, les factures, la voiture et tondre la pelouse. Pourquoi il sait jamais où sont les vêtements? Pourquoi tu refuses toujours qu'on débarrasse la table? Pourquoi papa continue de montrer que c'est un effort pour lui de mettre son assiette dans l'évier ou de tendre le bras pour attraper le vin ou la moutarde? Pourquoi ne m'as-tu jamais appris à repasser, à coudre, à lancer une lessive, à plier mon linge, à faire mon lit, la poussière, les courses, les légumes à découper, etc., etc. Donc en fait, Gary un peu se retrouve dans son studio, mais il est un peu, comment dire, il doit tout réapprendre en fait.
C'est le vieil adolescent dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire,
c'est ça qui est intéressant.
C'est quelqu'un qui se... Jusqu'à quel moment ce personnage-là, et donc moi-même, prend conscience que cette attitude... fainéante et débraillée ne peut plus durer. Jusqu'à quel point c'est une reconduction de l'adolescence qui dénote un refus de grandir ou de mûrir. C'est se demander juste pourquoi est-ce qu'on en arrive à ça. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à cette attitude-là? Et donc réexaminer l'éducation, constater que ma merveilleuse maman n'a pas cherché une minute à me transmettre toutes ces choses-là. Et donc pourquoi? Parce que il faudrait surtout pas qu'on puisse croire que cette litanie de questions serait teintée du moindre reproche. Absolument pas.
Non.
Parce que elle-même, elle est en fait le produit d'un système qui a un nom très clair, qui s'appelle le patriarcat, et qui demande depuis des siècles aux femmes de s'occuper du soin, de s'occuper du ménage, de la cuisine, des enfants, de la santé. Et ça n'a pas été même pas questionné au sein de ma bulle familiale primordiale, c'est-à-dire mes parents, moi, mon frère. et mais même pas non plus dans la la génération précédente auprès de mes grands-parents. Donc du coup, je me dis, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que la lignée se brise sur la question du ménage? Et je pense que j'écris aussi ce texte-là pour me dire à moi-même, ça suffit. Il est hors de question que je demande à qui que ce soit ayant la bonté de venir vivre avec moi, de s'occuper de mes affaires, de mon slip et de mes tartines. C'est pas possible, en fait.
Pourquoi n'ai-je rien appris par moi-même? Pourquoi Frédérico sait tout faire aujourd'hui dans sa maison et moi rien, alors que lui, c'est le petit qui est asthmatique? Pourquoi a-t-il deux enfants et moi aucun? Pourquoi est-il propriétaire de sa maison, d'une grosse voiture, d'une moto japonaise qui te fait peur? Pourquoi est-il déjà marié avec cette fantastique infirmière qu'il a connue au lycée? Pourquoi Rita ne me rappelle pas? Voilà.
Très bonne question.
Question sur la solitude. Mais je vois que ça s'agite dans la régie.
Ça s'agite en régie?
Oui. Ah bah oui, bah il y a une grande chanteuse, musicienne, compositrice, parolière qui a écrit une chanson que vous aimez beaucoup, je le sais. Une
je
petite souris me l'a dit.
Vous avez raison. Ça s'appelle Conne.
Voilà.
Et tu parles du ménage.
Parce que je suis conne et que tout le monde est con. J'ai raté ma vie, j'ai raté mon évolution spirituelle, je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique. Con, je suis passé à côté de l'amour.
Et voilà, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Bibliomanie. Aujourd'hui avec Richard Guettet, qui va tout de suite parler, bien sûr, mais je veux vous citer d'abord Richard Guettet. Gary se marre en écoutant son idole Brigitte Fontaine hurler qu'elle est conne parce qu'elle est incapable de passer l'aspirateur au niveau du concret. Je suis archi-tâche. Voilà,
je vous remercie infiniment d'avoir joué ce morceau parce que c'est vraiment, et je le redis, c'est vraiment une de mes idoles. C'est vraiment un modèle d'artiste sans compromission.
Oui, tout à fait.
De sa première intervention théâtrale, je crois le premier enregistrement c'est en 1963, et elle est encore en train, aujourd'hui, elle a enregistré récemment les textes pour un futur album, et c'est une soumission naturelle au format et aux différents esprits de l'époque. Je suis ruisselant d'admiration à son égard. J'ai eu la chance récemment d'enregistrer toute une série de mantras métaphysiques, haïku nocturnes avec elle, qui sont devenus une pastille sur FIP, et qu'on peut entendre tous les soirs à minuit. Et c'est vraiment de minuit à minuit et 50 secondes. Ça dure une minute. C'est pas en podcast. Vous pouvez l'entendre réaliser comme ça des pensées fulgurantes.
Donc
comment les arbres font-ils pour toujours faire quelque chose de beau?
Oui, très bien.
Voilà. Et une pensée pour le compositeur de cette chanson et de tout l'album Genre Humain, d'où provient ce titre exceptionnel, Areski Belkacem, qui nous a quittés il y a 10 jours.
Ouais, il y a 10 jours. Est-ce que vous écrivez en musique ou pas, Richard Guettet? Est-ce que vous avez besoin? Parce qu'il y a aussi dans votre roman, je pense, il y a cette notion de bruit de fond, en tous les cas, de rythme. Oui, de bruit de fond, qu'on entend. Enfin,
Regardez, je vais vous répondre. Je ne peux travailler qu'en silence, alors que je suis moi-même très agité. Il y a d'ailleurs quasiment toutes les lettres de mon nom de famille dans le mot agité. Mais je vois bien que je n'arrive quasiment jamais, même à de rares exceptions, quand je passe de la musique instrumentale un peu planante pour essayer d'élargir un peu mon imagination, même très vite je la coupe parce que je sens que j'ai besoin de me concentrer sur le texte.
Vous écrivez quand? Tout le temps? Vous avez des heures de prédilection pour écrire?
Jamais la nuit, parce que je vois aussi ça quand même comme un... C'est un travail. C'est un travail auquel j'aime m'adonner. Donc du coup, si je suis en période d'écriture, c'est-à-dire s'il y a un livre qui doit être rendu à une maison d'édition, ou si y a un texte que j'écris pour moi, pour mon propre plaisir, je mets quand même un réveil et j'essaie d'être au travail à 9h du matin. Et comme le suggérait le cinéaste David Lynch, il disait, pour obtenir une heure de travail, assurez-vous d'en avoir 4 devant vous.
C'est-à-dire
de se dire que en fait, pour le temps que les idées viennent, le temps que vous rassembliez en vous-même pour essayer de faire de peindre quelque chose de un peu intéressant, en fait, il faut quand même 4 heures de libre, et 4 heures, ça veut dire le téléphone est éteint, la porte de la pièce où vous travaillez est terminée et fermée, et vous êtes si possible très loin d'internet. 4 heures comme ça, théoriquement, le livre avance. Voilà. Et j'essaye, du coup, de m'en donner 8 plutôt sur les journées de travail. C'est-à-dire que je n'y suis pour personne avant 20 heures. Voilà.
Et un mot que vous venez d'employer, c'est se rassembler. Qu'on retrouve, que je retrouve comme à Malpropre, mais je le retrouve aussi dans Tête en l'air. Se rassembler.
Ah oui.
Se rattraper au vol. Tête en l'air, votre personnage est forcément, puisqu'il fait de l'escalade, est toujours au bord de l'abîme, au bord du vertical, il a le vertige, il ne sait pas s'il va continuer ou pas, il se rattrape.
Je précise, puisqu'on n'a pas encore dit de quoi il s'agissait, il y a pile 10 ans, figurez-vous, je me suis rendu compte en venant au studio que il y a exactement 10 ans, j'étais suspendu à des échelles, à des barreaux d'échelles sur la mer de glace, sans corde, vraiment descendre des échelles de fer sur une taille de la tour Montparnasse. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais descendu la tour Montparnasse. Et ça, c'était l'exercice numéro 1 de mon entraînement en vue de faire l'ascension du Mont Blanc, tel que me l'ont proposé les éditions Paulsen. Ils souhaitaient qui est le récit intégral d'un entraînement en vue d'atteindre ce sommet, mais pas du point de vue d'un alpiniste, pas du point de vue du sportif, c'est un peu le Mont Blanc pour les nuls. Et donc, du coup, vu que j'avais, malgré tout, sans être ni l'un ni l'autre, un attrait sensible pour l'univers de la montagne où j'ai passé beaucoup de temps quand j'étais petit, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup. Et j'ai bénéficié, à ce moment-là, de l'entraînement d'un sensei, d'un très grand alpiniste européen qui s'appelle René Ghilini, que je salue, et qui s'est dit, ce qu'il y a de bien avec toi, c'est qu'on ne part pas de zéro, on part d'en dessous de zéro, puisque je suis myope, parce que j'ai des problèmes d'équilibre, mais vu que je suis volontaire et rigolo, dit-il, il m'a dit, bon allez, je te prends quand même en disciple et on verra bien où ça nous emmène.
Oui, vous dites d'ailleurs, moi sportif proche de zéro, bigleux comme pas deux, finaliste annuel du championnat du monde des empotés, fêtard gourmand, doté d'un charmant petit ventre à bière, descendant d'une longue lignée de cardiaques et intello poli du 20e arrondissement de Paris, j'irai bientôt cueillir des roses au sommet du Mont Blanc. Voilà, ça c'est pour donner une idée de votre style,
ouais,
aussi, et qui est comme un roman aussi. C'est un récit, mais c'est vous vous amusez avec vous-même, vous vous transformez en personnage.
Déjà, je vous redis ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut savoir rire de soi. C'est quand même comme ça que d'une part on essaye un peu de se débarrasser de ce compagnon pénible qui est l'ego. Et ensuite, si vous êtes capable de rire de vous-même, vous avez de bonnes chances probables de faire rire les autres, je pense. Donc du coup, c'est un geste d'hospitalité. Venez donc, vous allez voir à quel point il m'arrive de me planter, etc. Et même si c'est un récit, là, effectivement, dans celui-ci et dans Rainbow Warriors,
voilà,
que vous avez cité tout à l'heure, qui est une traversée à pied dans les pas de Rainbow avec une bande de copains-copines sur le trajet de sa seconde fugue, qui est un moment vraiment clé dans son existence, je me suis dit, je dois de nouveau utiliser les outils du roman. C'est-à-dire, je dois me poser la question de début et fin de chapitre, j'accroche, je relance l'attention, il y a des surprises, il y a des arrêts, il y a des accélérations, des ralentissements, il faut qu'on puisse adorer les digressions, mais toujours suivre toujours avoir dans le viseur sa destination. Je sais où je vais, mais je m'amuse avec les outils à disposition, comme dans un roman.
Oui, avec des outils. Puis alors, pour revenir à comme un malpropre, c'est vrai, vous dites ces figurines, ces monstres de plastique sont armés de combattants, ninjas, chevaliers, militaires, barbares, super guerriers, ceux de son enfance, ce monde sans femme qui le ramène en enfance. On pourrait dire vraiment que ce studio, cette tanière, c'est comme une nacelle avec vue sur l'enfance.
Enfin, il y en a des traces. Donc effectivement, puisque c'est un inventaire de ce qu'il y a dans cet appartement, et donc du coup je relève des traces de l'enfance. Donc effectivement, quand je suis dans les toilettes et que je lève la tête et que j'aperçois une boîte à chaussures, je ne l'ignore pas, cette boîte à chaussures, elle est pleine. J'ouvre la boîte à chaussures et qu'est-ce qui reste? C'est tout ce qui me reste de jouets de quand j'étais petit. Et du coup, je vide la boîte à chaussures sur une table et je regarde ce que c'est et je constate que ce sont quasiment que des personnages masculins, que des personnages guerriers. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de ce qu'on met dans les mains des petits garçons, de dire, tiens, c'est que des combats, c'est quasiment. Donc ça mérite d'être signalé, interrogé. Voilà.
Avec cette question, serait-il plus heureux si sa tanière n'abritait plus ses reliques régressives qui sont déjà mises au placard? Le mieux, c'est sûr, serait d'offrir ses jouets à un enfant. Mmh. Cela viendra. Donc il y a des... C'est pas nostalgique du tout, hein, votre...
Non, parce que je voudrais... Pareil, c'est quelque chose qui me dégoûte plutôt d'imaginer... Des fois, j'en croise des gens qui sont confis...
Confie en nostalgie,
c'est vraiment de se dire...
C'était
mieux avant, et puis surtout qui érigent des petits musées à la gloire de leurs plus belles années. C'est-à-dire que vraiment, le cimetière n'est pas très loin. Moi, je suis traversé par un attachement à des périodes de mon existence, qui sont parfois symbolisées par ces petites figurines, mais il y a quelque chose de mortifère si je glisse vers l'adoration. Alors que la chance exceptionnelle qu'on a, c'est d'être en vie, et c'est de se demander qu'est-ce qui, dans ce présent-là, à la fois mon présent individuel et notre présent social, produit de la joie. Qu'est-ce qu'il faut raconter du monde dans lequel je vis? Parce qu'il y a des raisons, alors qu'elles sont un peu moins nombreuses ces temps-ci, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal dans ce monde, mais il y a quand même des raisons de se réjouir dans à peu près tous les champs de la connaissance.
Mais il y a de la jubilation dans votre écriture.
Ah, beaucoup,
on pense
beaucoup.
Un peu à Raymond Devos parfois, il y a de ce côté.
Ah oui,
alors, elle note, ça c'est Rita sans doute. Peut-être qu'écrire n'est jamais que cela en fin de compte, déblayer.
C'est Mona Chollet qui dit ça, c'est une citation que je lui emprunte dans ce chapitre.
Ça, c'est important.
C'est très important.
Ouais.
C'est dans son essai sur, qui s'appelle Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, que je lisais d'ailleurs au moment, alors que j'étais en train de faire ce ménage-là, en prévision d'un futur entretien pour Arte Radio, dans lequel j'ai fait, comme avec tous les autres, 3 heures de conversation. Je vous invite à retrouver en ligne. et oui, peut-être qu'écrire n'est que ceci en fin de compte, déblayer. On fait le tri, on nettoie et on ne garde que l'essentiel. On ne dit que l'essentiel. C'est important aussi, le travail de coupe. C'est important de savoir ce qu'on doit rejeter d'un texte pour valoriser les meubles et les objets les plus dignes d'être exposés. Un peu comme dans un salon.
Non, mais on voit que, vous dites, Gary a écrit 3 livres sur cette planche vernie qui s'écaille, tapée dessus de rage ou de désespoir, entassée des documents, donnée de la matière à ces fantasmagories. On voit que vous revisitez l'espace, que vous lui redonnez de la vie, que vous lui redonnez sens, et que c'est important aussi à la fois d'habiter son écriture, mais d'habiter le lieu où on est, de passage ou non. Parce que là, vous habitez aussi, quand vous êtes dans, je parlais de la montagne, vous habitez là aussi, vous habitez la montagne, la verticalité, vous cognez contre la réalité, vous vous agrippez à la réalité,
oui,
vous corrélez. Et là aussi, vous êtes en combat contre cette accumulation d'objets. Vous êtes un accumulateur né, Richard Guettet, ou...
Non. J'ai appris à... Déjà, parce que c'est vraiment une question de survie, j'ai appris à jeter.
Ouais.
Je suis pas, j'en parle dans le roman, je suis pas atteint du syndrome de Stockholm, des gens qui sont
d'Diogène.
Pardon, j'ai dit Stockholm, oui, vous avez raison, merci de me reprendre. Je suis pas retenu en otage par moi-même. Non, je suis pas non plus, j'ai pas le syndrome de Diogène, c'est-à-dire les gens qui accumulent compulsivement, qui gardent tout et qui se refusent à jeter. Mais non, pas du tout. Mais j'essaye de consigner dans les livres, justement, ou dans les émissions de radio, ou via les réseaux sociaux, les choses importantes. Sur justement, la pratique, par exemple, qu'on pourrait voir, et on aurait raison, comme périphérique, accessoire des réseaux sociaux, me sert quand même à fixer des choses que j'aurais oubliées dans 15 jours. C'est-à-dire que si j'assiste à une scène qui me paraît éloquente, touchante, bouleversante, très drôle dans la rue, j'essaye dans le jour qui suit d'en faire un petit texte pour pouvoir le garder.
Vous avez un journal ?
Non, c'est les réseaux.
C'est les réseaux.
C'est-à-dire que je tiens pas de journal, mais je me dis, tiens, s'il m'est arrivé quelque chose qui continue de me faire réfléchir, vite, avant de le perdre, je le place et je le partage. Parce que je le fais pour ne pas attendre qu'un roman nécessite de convoquer ce souvenir. Je veux l'avoir à disposition. Je veux pouvoir le récupérer si un jour je me dis, il m'est arrivé un truc comme ça. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah oui, il y avait ça. Et du coup, ça reste en ligne. Et puis, c'est pas désagréable aussi de partager des toutes petites pensées qui parfois touchent plus les gens qu'un texte qu'on a mis 3 ans à écrire.
C'est important pour vous que l'écriture, finalement, ça soit immédiat, que le texte soit écrit, enfin, de l'avoir écrit dans l'immédiateté de la sensation présente.
Alors, pour exercer le muscle de l'écriture, oui.
Ouais.
Parce que c'est un peu comme les musiciens qui font leur gamme, pour pas perdre non plus pour pas perdre le fil et de se dire, est-ce que je suis encore capable de décrire une situation et il faut que je continue à progresser, parce que il me semble que vous êtes autrice, vous aussi. Moi, j'ai quand même, et je l'entends dans la bouche de beaucoup des invités de mon podcast, il y a une petite trouille de se dire, est-ce qu'on va réussir à nouveau à faire un livre? Un livre qui tient la route, un livre qui tient debout de la première phrase à la dernière phrase.
Ça donne le vertige, comme
Ouais, un peu comme quand on est sur une corniche.
Ouais.
Mais je me demande toujours, je crois que oui, je crois que je suis en train d'écrire plusieurs livres en même temps, mais je vois que petit à petit, ça veut pas dire que c'est toujours bien, mais petit à petit, à force d'heures de travail, à force de recherche, j'arrive à sculpter quelque chose qui tient à peu près la route. Mais il y a toujours un petit doute avant de se relancer dans un chantier. Et je trouve que cette écriture qui est presque quotidienne de partage d'instantané me sert à
faire
mes gammes.
Vos gammes. Le titre, est-ce qu'il vous vient avant le texte ou en cours d'écriture? Il y a le sous-titre aussi, parce que vos sous-titres, ils sont marrants. Ouais. Hein. Alors, les sous-titres, ils sont pas mal du tout.
Merci. Pour comme un malpropre, il est arrivé en dernier. Le texte, c'est longtemps appelé 42 ballets.
C'était pas mal
c'était
non plus.
L'âge du narrateur et ça, c'était un peu le nombre de balais nécessaires pour pouvoir nettoyer mes écuries d'Ogea, si vous voulez. Et puis, à un moment, avec Pierrick, l'éditeur, on s'est dit que c'était un peu potache. Et on était 10 jours avant le départ à l'imprimerie et il fallait en changer, je sais pas. Et je la remercie à la fin du texte, une écrivaine qui s'appelle Sarah Tadlaoui, qui s'apprête également à publier à la rentrée aux éditions Héloïse d'Ormesson son premier roman intitulé Croire au code. Je lui raconte l'histoire et en partant, je lui dis et si jamais tu as une idée de titre, vraiment, ça serait fantastique. Et le lendemain, elle me dit « comme un malpropre
oui, ».
Et en fait, c'est fou parce qu'on entend... La seule expression qui fonctionne, c'est « se faire virer comme un malpropre
ouais. ».
C'est l'hypothèse qui pend au nez du narrateur. Peut-être qu'il va se faire licencier de son histoire d'amour.
Et virer de chez lui, peut-être.
Et surtout, on entend phonétiquement deux choses. Il y a le malpropre, c'est-à-dire celui qui serait... un peu sale ou mal appris, mais aussi ce qu'il désire devenir, c'est-à-dire, en deux mots, un mal propre.
Oui.
Voilà. Ouais. Donc on a le début et on a la fin dans le titre. Ouais. Et je me suis dit, c'est incroyable, tout est là.
Et puis, il y a aussi, alors, c'est sans faire de psychanalyse, il y a aussi cette notion, vous dites, Rita lui a dit qu'une fois qu'elle aime fouiller chez les autres quand ils ou elles ne sont pas là. Il y a aussi cette histoire de secret.
Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on se cache à soi-même dans l'accumulation des objets? Qui est-on réellement? Comment faire le tri? Son tri sélectif?
Oui.
Comment, quand on vit avec quelqu'un, on cache certaines choses? Enfin, il y a cette notion-là,
Roman. C'est un grand thème dans ma vie, hein, parce que, pour le coup, j'ai le premier roman, Les Orpales, ne parle que de ça, c'est-à-dire les secrets de mon père, ce qu'il a vraiment volontairement omis de nous raconter, pour le dire avec un euphémisme. Et c'est quelque chose avec lequel je continue de dialoguer très fort encore aujourd'hui. Donc c'est un territoire de fiction sans fin, c'est-à-dire que si vous partez du principe que ce qui vous a été présenté dans votre enfance comme un théâtre de vérité, l'expression est riche en paradoxes, c'est-à-dire disons la famille ou le couple de vos parents et qu'à 22 ans vous vous apercevez qu'en réalité il était fissuré à plein d'endroits et qu'en fait ce n'était pas si simple, du coup d'autres fictions viennent se nouer à l'intérieur de ça. Moi ça devient c'est un geyser d'hypothèses et de scénarios qui sans doute ont un rapport direct
avec votre histoire,
avec mon histoire, avec surtout ma... Une de mes fonctions, place, c'est conteur, quoi. C'est vraiment fabricant d'histoires.
Oui. Il pense à cette essayiste japonaise qui fit ranger les chambres de ses proches ou réorganiser la salle de classe pendant la récréation, qui en grandissant a commencé à voir sa maison comme un adversaire à abattre, qui s'est évanouie en désirant jeter toutes ses affaires avant qu'une voix intérieure lui conseille de regarder les choses plus attentivement.
Vous avez reconnu cette personne? Parce que elle est extrêmement célèbre. C'est Marie Kondo.
Ah.
Celle qui est devenue mondialement connue grâce à ses techniques de pliage. Et c'est assez drôle parce qu'effectivement, elle a eu un... Là, il y a trois étapes clés de son existence. Il y a le début où c'est une sorte de robot personnel où rien ne doit dépasser dans sa chambre, puis dans sa maison, puis dans son appartement. Elle devient la référente sur la question du rangement. Devenant trois fois mère, elle voit bien que ses enfants amènent du désordre, de l'entropie à l'intérieur de sa propre vie et qu'elle n'arrive pas à contrôler ces êtres vivants puisqu'ils, naturellement, ils sont vivants. Donc, il y a des jouets, donc il y a des vêtements, donc il y a des tâches. Donc elle fait une dépression. Et au bout d'un moment, elle se dit, en fait, je n'en peux plus de cette vie qui devient paradoxale. Et elle veut peut-être tout jeter de son existence, tout rejeter. Enfin, c'est un personnage plus complexe qu'il n'y paraît.
Ouais, alors donc ordre, désordre, avec aussi, vous citez Godard, je crois, dans Détective.
Oui.
Et ça, c'est trop transparent ou pas assez, ça dépend si vous voulez montrer la vérité. C'est comment la vérité, c'est entre apparaître et disparaître. Apparaître et disparaître.
Ouais, c'est trop tour beau.
De... Mais il y a un clin d'œil comme ça, il y a un côté cinématographique aussi, hein, Richard Guettet, on pourrait presque en faire un petit
alors,
film.
C'est drôle, j'ai des amis cinéastes qui se demandent si ça serait intéressant de l'adapter.
Ouais,
j'aurais dit, bah d'accord.
Un court métrage.
Oui, oui, un court, ou un moyen métrage, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, ouais. Mais en tout cas, quelque chose effectivement qui serait le juste. On pourrait voir à la fois, ce serait drôle de faire, vous savez, la technique du split screen, les écrans partagés, que, c'est une technique qu'a beaucoup utilisé Brian De Palma, et on pourrait voir dans la même pièce à la fois le couple en train de s'aimer. Et de vivre une quotidienneté vraiment très tendre, et de l'autre et sur le côté droit de l'écran le héros Gary en train de nettoyer, de s'emmerder à essayer de faire disparaître des tâches quoi.
Ouais.
Peut-être que ça discuterait de manière éloquente, faut voir.
Et puis alors c'est vrai que bon il y a la salle de bain, moi je trouve que c'est quand même c'est peut-être à raison du livre, du fameux livre de tout ça, mais c'est vrai que la salle de bain, il y a voilà, Gary cherche parmi les bouquins classés par pile bien droite dans l'entrée, alors là c'est autre chose, l'origine de cette expression qui associe l'âge au balai, tiens justement, personne n'est d'accord, une tradition auvergnate exige d'accrocher le matin de ses noces un nombre de balais correspondant à son âge au pare-choc de sa voiture, une coutume asiatique suggère de changer de balai une fois l'an pour marquer le passage du temps. Voilà, d'où le titre, le premier titre, 42 balais. Ouais. On va faire une pause musicale avant de prendre d'autres balais.
Alors qu'est-ce que ce sera maintenant?
Eh bien, ça sera une rockeuse, jazzeuse, dont vous connaissez l'original, mais vous allez voir « Don't Rain on My Parade ».«
Don't Rain on My Parade ».
Oui, alors mon accent, je suis désolée.
Prie, ne
c'est
ne
Véronique...
pleuvez pas, ne pleuvez pas sur ma parade, s'il vous plaît. C'est de Bobby Darin, me semble-t-il, l'original, qu'on entend sur la bande originale du film « American Beauty ».
Waouh! Et là, elle s'appelle Veronica Swift, et elle est absolument faramineuse sur scène. Not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a clown parade on my parade. Don't tell me not to fly, I simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain? Perfection, a freckle on the nose of life's complexion, a cinder or a shiny apple of its eye. I gotta try once, I gotta fly once, only can die once. Ooh, life is juicy, juicy and juicy, I gotta have my bite, sir. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody's gonna rain, rain on my again some other day.
the comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Nobody's gonna rain on my parade.
Incroyable.
Sur scène, elle m'a fait penser à une Nina Hagen mille fois plus déjantée.
Mais c'est dingue, c'est ouais. Une version punk rock absolument incroyable. Je vous remercie de me l'avoir fait découvrir. Ça n'a rien à voir avec l'original, mais on dirait vraiment le punk rock des années 90 entre Green Day et The Offspring. C'est vraiment fou.
Bon, tout ça pour dire que vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et que nous parlons toujours des livres de Richard Guettet, donc Comme un malpropre, Tête en l'air, Rainbow Warrior, chez différents éditeurs, plus Les Ours Blancs. Les Ours Blancs n'ont pas perdu le Nord à ce moment-là. Voilà. À l'école des loisirs. Alors, ce que je voulais... Il y a votre dernière phrase. À son départ, Gary se saisit d'un chiffon.
Et ne dis pas.
Ah, pourquoi?
Parce que c'est...
Ah, bah vous faites partie.
Tout est construit alors,
je dis pas.
Chemin.
Je dis pas.
C'est-à-dire que vraiment, ça...
Faites partie, vous savez, deuxième fois, dans une deuxième émission, qu'un auteur ne veut pas qu'on lise la dernière
phrase. Ah non, parce que c'est un peu comme si vous... Dans un Hitchcock, si vous dites... alors, le meurtrier, en fait, c'est lui.
Non,
c'est moins... Là, le suspense est moins important, mais il y a quand même une petite mécanique. Mais je vous empêche pas de poser une question.
Oui.
Je veux juste pas la citer.
La première et la dernière phrase, est-ce que c'est important pour vous? Est-ce
fondamental.
Que vous, est-ce que vous soignez autant la première que la dernière?
Là, bien sûr. C'est assez drôle parce que on l'aura pas entendu, mais je peux vous dire quand même qu'il y a eu au moins un mois de discussion avec Pierre Suchaud, qui a été l'éditeur au sens, le travail sur le texte, et Pierre Starsky, l'éditeur, vraiment l'éditeur diffuseur, l'éditeur du texte, le patron des éditions Esquif, qui, sur une deuxième dernière phrase, qui proposait un ultime rebondissement qui changeait la perception qu'on avait de l'histoire. Et moi, je me disais, mais oh, c'est vraiment trop original. Il faut vraiment, il y a une fin à tiroir. Tiroir, c'est important quand on range une maison. Ça change, ça désoriente, ça déboussole, puisqu'on en revient à votre première question. Et ces deux Pierrot me disaient, mais enfin, tu vois bien qu'on t'es en train de nous perdre, alors qu'il y a déjà une fin qui tient et qui est déjà en elle-même mystérieuse. Donc c'est de l'horlogerie, et c'est fondamental de savoir commencer et de savoir terminer. Je me demande toujours quelle est la bonne porte d'entrée et quelle est la bonne porte de sortie, parce que c'est ce que j'adore dans toute forme de récit. J'adore ça au cinéma, j'adore ça au théâtre. Je veux qu'on me laisse avec, souvent, j'adore les fins ouvertes. J'adore aussi quand l'histoire continue, même alors que l'action elle-même est terminée. L'exemple, le premier qui me vient, c'est dans Le Seigneur des Anneaux, à la fin du troisième tome, Le Retour du Roi. Grosso modo, une fois que le mal a été anéanti, il reste encore 80 pages où on apprend la destinée des 10 personnages principaux et ce qui leur est arrivé, etc., jusqu'à leur mort. Ça me bouleverse. Si on le fait vraiment bien, je trouve ça vraiment, vraiment bouleversant.
Et puis je dirais aussi que dans votre façon d'écrire, surtout là dans Comme un malpropre, vous ouvrez des portes sans arrêt. Ben oui, vous ouvrez des portes, la porte des mots, la porte des phrases, la porte visuelle aussi, la porte des émotions, la porte des coups de cœur.
Des souvenirs.
Et des souvenirs. Vous ouvrez des fenêtres aussi, des fenêtres pas mal. Il faudrait qu'on parle de Rimbaud. Hein,
oui,
Rimbaud aussi, on a le temps. Rimbaud Warriors. Alors là, c'est un peu l'art de la fugue, Richard Guettet. Avec, alors là aussi, vous soignez les têtes de chapitre. Il y a un petit personnage. Voilà, il y a des titres pour les têtes de chapitre. C'est important aussi. Ça.
Alors là, pour le coup, c'est les alors. Un peu de contexte.
Oui.
J'ai donc travaillé pendant 12 ans sur Radio Nova, où j'avais une émission le soir sur la littérature, et j'essayais de trouver des manières de faire vivre la littérature de manière un peu vivante, électrique,
épidermique.
Épidermique, et si possible au grand air. Alors j'avais la chance d'avoir une bande d'amis, des garçons et des filles. Julien Blangras, Guillaume Jean, Marguerite Demouette, François Perrin, Bertrand Guillot, Haute-Samaru, enfin que des gens absolument passionnants, qui se compagnonnait avec moi bien volontiers pour inventer les prix littéraires. Et à un moment, on s'est dit, tiens, on a inventé un prix littéraire qui s'appelle le prix de la page 111, qui est encore remis aujourd'hui, là ça va faire maintenant presque 15 ans, et qui consiste à examiner chaque page 111 des romans de la rentrée littéraire francophone, ce qui représente à peu près 222 romans, 222 pages donc, et la page est une œuvre d'art à part entière. Donc on la regarde comme si l'auteur ou l'autrice n'avait écrit que ça. On en restituait 11 finalistes et ça devenait une émission de 111 minutes sur Radio Nova en direct et en public où le vainqueur remportait 111 centimes en pièces de 1 centime et 111 bisous de la part du public. Un jour, alors qu'on était en train de fabriquer une des cérémonies, quelqu'un nous avertit que entre Charleville-Mézières, donc ville où Arthur Rimbaud a grandi, été élevé, et Charleroi, qui est donc l'une des destinations de sa deuxième fugue, qui est un moment vraiment clé dans son existence, alors qu'il a 15 ans et 11 mois, il y a 111 kilomètres.
Voilà.
Et donc on se dit, c'est une sorte d'appel, et si on faisait un documentaire à pied sur ces 111 kilomètres pour restituer une biographie d'un mois d'Arthur, expliquer les raisons de sa fugue, pourquoi est-ce qu'il s'en va, mis en parallèle avec notre propre fugue amicale, c'est-à-dire lui, il est parti en hiver et tout seul, et nous, on part en été à 11, dans Rainbow Warriors, Rhapsody, sous-titré oui. Rhapsody pour Bohémien.
Très important, ce sous-titre.
Je raconte, en alternant les chapitres, notre aventure et son aventure, en étant au plus près de ce que les sources biographiques peuvent me fournir à son sujet. C'est un moment vraiment charnière, puisque c'est ce mois-ci dans lequel il va goûter ce qu'il appelle la vie errante et gratuite. C'est là qu'il va comprendre, en étant loin de chez lui pendant un mois, qu'en fait, il ne travaillera jamais dans un bureau. Il croyait qu'il allait devenir journaliste. Pas du tout. Il va se faire... parce qu'il est en fait incapable d'avoir un patron et il ne supporte pas les figures d'autorité. Donc, il aurait sans doute aujourd'hui sa place en étant animateur sur Radio Libertaire. Il va comprendre qu'en fait ce qu'il souhaite, c'est vivre au grand air et surtout marcher. Il a marché, et c'est même, ça va lui coûter la vie, il marchait 15 à 40 kilomètres par jour.
Oh là là, ouais.
Donc c'est en partie une des raisons pour laquelle il va faire une infection, un épanchement de synovie pour être précis, du genou, qui ne sera pas soigné, qui causera le fait qu'il perdra sa jambe gauche, et l'élargissement en cancer qui lui coûtera la vie à 37 ans, me semble-t-il. Et donc c'est de trop marcher qui le tuera, de trop rêver. C'est pendant ce mois-ci qu'il va composer ce qu'on appelle les cahiers de Douai. Donc c'est la première livraison poétique dans laquelle on trouve certains de ses poèmes les plus célèbres, qui sont Le Dormeur du Val, Sensation, Ma Bohème, Le Cabaret Vert, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Dans ce contexte-là, on s'est bien amusé à vivre cette aventure.
Oui. Puis vous avez des phrases que j'aime beaucoup.
Et oui, pardon. Et les sous-titres de chaque chapitre, parce que c'était ça votre question, ce sont toujours des fragments des poèmes de Rimbaud écrits pendant cette période.
C'est vraiment très très bien. Alors vous dites que Rimbaud est cet évadé discret qui voyageait sans bagages ni linge de rechange. Moi, je dirais presque sans billets de retour non plus.
Oui,
donc,
vrai, exact.
Voilà. Vous souhaitez déboulonner de son piédestal la statue de l'auteur au verbe intouchable. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Alors moi, je connaissais, il y avait le livre de Michon, je crois.
Rimbaud le fils,
à la très belle collection.
Écrit sous amphétamine, ce que j'ai appris de sa propre bouche lors de l'entretien qu'il m'a accordé chez lui pour Arte Radio.
Et puis, on pourrait dire que Rimbaud, c'est aussi le premier des libertaires, hein, comme vous venez de le dire. Il a un côté, vous dites...
Rétif à toute autorité. Ouais. Et comme vous le savez sans doute
et
également...
Et que sa mère appelait le petit drôle.
Ah ouais.
Ah ça, ça m'a fait... C'est des petits détails. En fait, c'est un récit où il y a plein de petits détails.
Ah oui.
Vous aimez bien... Vous êtes un côté petit poussé quand même. Ramassez tous les petits cailloux, là. Hop, il y a un petit détail qui
ensuite fabriquer une petite cathédrale.
Ouais.
À partir de cailloux blancs.
Et puis vous aimez saluer vos compagnons de route. Je pense à Julia Blangrave, qui est écrivain reporter, dites-vous, champion de Scrabble, géonévropathe.
Oui, ben, en fait, je me suis dit, ce qui a vraiment fait défaut, mais c'est sans doute à cause de sa nature très sauvage, ce qui a fait défaut à Rimbaud, c'est qu'il avait aucun ami dans sa vie, quasiment pas d'amour, à part le célèbre amour brûlant qu'il a vécu avec Verlaine. Mmh. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant, nous, on part en compagnonnage, on part en bonne bande. Et pour pouvoir faire un récit collégial, avec parfois un humour de collégien, ouais. Je me suis dit, il ne faut pas que les choses tournent autour de moi. Il faut vraiment que je sois capable de faire régulièrement une adelphité, si j'ose dire, parce qu'il y a aussi des filles, une galerie de portraits de ces joyeux drilles qui m'ont accompagné pendant cette semaine dans les Ardennes. Et du coup, c'est mon livre sur l'amitié, parce que pouvoir dire pourquoi j'aime ces gens-là et à quel point c'est précieux. Ce sentiment un peu rare qui est une forme d'amour qui est un peu moins chanté que l'amour au sens romantique, oui. Et sensuel.
Vous dites s'engager sur les traces d'un écrivain, dans le cas de Rimbaud, ça n'a aucun sens, il est par essence celui qui ne laisse aucune trace.
Les biographes s'arrachent un peu les cheveux. Je cite quand même
Jean-Jacques Lefrère qui est venu ici.
C'est vrai ?
Oui.
J'aurais
venu à plusieurs reprises.
J'aurais vraiment, vraiment beaucoup aimé le rencontrer, malheureusement.
C'est un homme exceptionnel.
J'ai vraiment, depuis 10 ans, sur ma table de nuit, sa biographie de Rimbaud, qui fait 1500 pages, qui est un fleuve de connaissances, qui est un monument de rigueur. Et je retournais toujours vers son travail, donc évidemment, je lui rends hommage dans le texte. Mais parce que c'est incroyable d'avoir été, pour le coup, le plus grand des détectives privés de la Rimbaldie, quoi.
Ouais, il était bien à votre place.
Très honoré.
Quelques années. Le temps passe très vite. Et puis, vous évoquez, alors, on va aussi la descente de Ménilmontant. Enfin, voilà, ça, c'est des petites anecdotes. Est-ce qu'on parle aussi du livre pour la jeunesse, là, Les Ours?
Si vous le souhaitez, oui.
Bah, c'est vous.
Oui, j'ai publié à la fin du mois d'août un premier roman pour les enfants qui s'intitule Les Ours Blancs ne perdent pas le Nord, avec les dessins d'Anne-Hélène Dubray à l'École des loisirs.
Oui.
C'est une tentative, j'espère heureuse, d'expliquer le phénomène de la fonte des glaces et le réchauffement climatique aux 8-13 ans, mais sous l'angle d'une... une sorte d'instinct de révolte. C'est-à-dire que l'idée, c'est de partir de deux personnages qui tout opposent, à la fois leur nature profonde. D'un côté, il y a un ours à lunettes qui s'appelle Hob, qui est trouillard, assez discret et qui ne comprend pas, qui est absolument terrifié par l'effondrement que représente le bouleversement que représente la fonte des glaces dans ce que ça change dans la faune et la flore, dans la vie des Inuits, dans la vie de la plupart des espèces présentes, la difficulté à s'alimenter, les fissures dans les maisons, l'apparition de nouvelles espèces, la montée des eaux, voilà. Et en face, une petite fille qui s'appelle Cara,
oui.
qui a 10 ans et qui démarre au tout début du livre, dans ses 5-6 premières pages, une carrière d'éco-terroriste, c'est-à-dire qu'elle met le feu à des plateformes pétrolières pour dire, en fait, ça suffit, vous ne pouvez pas continuer à exploiter, à chercher à aspirer les ressources énergétiques des pôles, parce qu'en fait, on habite là, en fait. Et la rencontre entre quelqu'un qui est sidéré, qui est dans la sidération et qui cherche à fuir parce qu'il pense que tout est foutu, et un esprit de combat qui va sans doute un peu trop loin dans la violence, en fait, tout ceci va produire au sein du pôle une révolte interespèce, c'est-à-dire que plein d'autres animaux vont finir, et quelques humains, vont finir par les rejoindre pour essayer de faire changer les choses face à un ignoble homme d'affaires qui s'appelle Yamal Vise un peu le Schnock, qui possède la plupart des navires de croisière et les brise-glaces et les plateformes pétrolières et les établissements touristiques, qui est une incarnation maléfique du capitalisme en mélange entre Donald Trump, Elon Musk qui est le, et le propriétaire de la centrale nucléaire des Simpsons, la série télévisée, Monsieur Burns.
Oui, alors c'est écrit pas du tout comme on écrit pour les enfants. Enfin, moi, je l'ai lu aussi comme un livre. Enfin, vous considérez l'enfant comme un adulte. Donc, c'est écrit.
Pas tout à fait. C'est-à-dire que je prends très au sérieux l'écriture.
Est-ce qu'il y a eu des contraintes pour écrire ce livre, par exemple.
Je prends très au sérieux le fait de m'adresser aux enfants.
Oui.
Ne jamais les prendre pour des imbéciles. Savoir leur expliquer précisément quels sont les dangers, les périls des situations que nous connaissons tous. Cependant, je pourrais pas dire non plus que je m'adresse à eux comme à des adultes. J'ai réduit quand même assez considérablement mon vocabulaire, mais je voyais que puisqu'ils ont l'âge évalué de, que j'imagine, c'est 8-13 ans. Donc à 8-13 ans, on a quand même un bagage, on a des bagages conceptuels, on a quand même un vocabulaire. J'ai beaucoup d'outils dans ma besace quand même pour leur parler. Mais il faut pas que, par exemple, je joue trop. Ça a été un bon exercice avec mon éditrice Véronique Hates. Faut pas que je joue trop des ellipses, par exemple. Un enfant de 8 ans, si on change de temporalité ou de lieu, une phrase n'est pas inutile pour lui dire on vient de changer de lieu.
Ouais. Donc il y a des
astuces où, par exemple, à un moment à l'intérieur du livre, il y a un chapitre qui parle d'un parlement des glaces où chaque espèce animale est représentée par un ou une députée pour essayer de statuer du sort des humains et des humaines qui nous enquiquinent par leur destruction répétée. Et au début de ce chapitre, à un moment, la présidente de l'Assemblée des Neiges, qui est une chouette, utilise le mot « démocratie ». Et dans la première version du texte, je le prenais pour acquis. Et mon éditrice me dit, en fait, un enfant de 8 ans, il ne sait pas ce que c'est que la démocratie. Donc, ça serait bien que tu trouves un moyen de lui expliquer. Mmh. Au moment de l'écriture, on était en plein débat sur la réforme des retraites. Et donc, j'ai repris les éléments de ces débats pour les marsouins. Je me suis demandé, un marsouin qui part à la retraite, qu'est-ce qui est prévu au pôle s'il ne peut plus pêcher? Est-ce qu'on lui donne un petit salaire de mollusque pour parvenir à sa subsistance quotidienne? Mais qu'en pensent les députés mollusques? Est-ce que même ils sont d'accord pour pouvoir jouer le jeu du partage? Voilà. Et en fait, c'est ça. Il faut savoir trouver des idées et des images pour réexpliquer simplement les problèmes compliqués.
Est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture, Richard Guettet?
Alors là, spontanément, il y a...
Émotion
oui,
du
lecteur. Pierre Lapin, de Beatrix Potter.
Ah oui,
oui. Vous voyez,
j'avais les petits déjeuners avec...
Voilà. Ça, je pense que ça, c'est la première... C'est la première image qui me vient.
Je crois qu'il y a une actualité la semaine prochaine à la Maison de la Poésie.
Absolument, 19h à la Maison de la Poésie de Paris.
Alors, comment fait-on pour vous rejoindre?
Télérama me fait vraiment l'honneur de m'inviter à parler de ma vie, mon œuvre, et de manière un peu... je sais pas comment dire, original de faire vivre la
littérature. Ça peut être qu'original.
c'est simple. Il faut venir à 19h-10, mardi 23 juin, à la Maison de la Poésie. Et vous serez les bienvenus. Il y aura des surprises, parce que je vais imaginer des surprises.
Donc, il y aura quel livre? On va parler de quel livre?
Qu'elle souhaite, Carole Lefrançois, qui m'invite, elle souhaite qu'on parle de Comme un malpropre et des ours blancs ne perdent pas le Nord. Mais elle a aussi été témoin de la dernière... elle est venue faire un reportage pendant la dernière partie de la traversée des Ardennes à pied pour faire un bon Warriors. Donc, elle connaît bien cette aventure. Donc, je crois qu'elle veut en parler aussi.
Bon, alors, les auditeurs qui nous écoutent pourront aller sur le site de
la Maison de la Poésie,
puis ils ont toutes les informations. Oui. Voilà. Merci à vous, Richard.
Merci à vous, deux d'ailleurs. Merci pour votre accueil. C'était une grande joie de vous découvrir Radio Libertaire. Je me sens très honoré.
Bon, pour Comme un malpropre, ça vient de paraître aux éditions Esquif avec un beau dessin, faut qu'on
le cite. Ah oui, bien sûr, dessin de Lucas Harari, qui est un remarquable auteur de bande dessinée. Et récemment, son dernier album, Le cas David Zimmerman, a été adapté au cinéma par son frère Arthur Harari, et c'était en compétition au Festival de Cannes.
Comme un malpropre aux éditions Esquif, plus Tête en l'air et Rainbow Warriors, c'est chez Paulsen, et à l'école des loisirs pour les petits, Les ours blancs ne perdent pas le Nord, et nous non plus. Il y a aussi un podcast, vous savez, sur Radio Libertaire, donc vous pouvez télécharger l'émission, la réécouter, garder le lien et puis le transmettre aux amis de vos avis. Je pense qu'on va avoir une dernière chanson, voilà,
musique. Alors, de quoi s'agit-il?
Alors, Bon, déjà, votre livre pour les enfants, hier, je faisais une émission pour les enfants sur Radio Libertaire et ça s'appelle « Des cailloux dans l'engrenage » tous les 3e et 5e mercredi du mois. Bon, c'est un peu de la pub personnelle, très mais bien. Bon, vous parlez de littérature pour enfants et c'est quand même assez rare dans cette émission. Eh bien, puisque vous êtes si... vous aimez la perfection depuis la première... la première phrase et la dernière phrase, j'ai pensé à The National, The Perfect Song.
Voilà. Perfect Song, la chanson parfaite pour terminer. Ouais. C'est incroyable.
Alors, on y va.
Years older than I was when I brought you down to see what I thought would make you fall in love. We're an oak now with dreams. Someday, man, I'm gonna be no different than the other rivers. I tried to look at you, but I couldn't break the ice. We stood out there for an hour freezing. You put your hand around my back, I guess you thought I needed that. Ce ne sera rien,
silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. De juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à cette minute, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira : elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce. À cette minute, cinq vieilles dans un jardin public entameront la question de savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. À cette minute, un Français sera bien content d'avoir trouvé du travail.